Shalom, nous allons étudier Daf Tezaïn dans Maasechet Shkalim et nous rappelons que il manque les Dapim 11 à 14 de la Maasechet mais qui seront très bientôt mis en ligne. Donc on reprend à la fin du Daf Tezvar Amoud Bet. On avait vu une machloket. Est-ce que il y avait deux Aaron ou un Aaron, un avec les anciennes Louchot et un avec les nouvelles, ou est-ce qu'il y avait un seul? Kayam Sael Rabbi Yehuda Ben Lakish, on a un verset qui correspond à la vie de Resh Lakish. Aaron ve Israël ve Yehuda. Yoshim Basukot, c'est marqué que le Aaron, avec l'armée Israël et Yehuda, était installé à Sukkot, donc dans les cabanes, à l'endroit où on faisait la guerre. Valo, Aaron Bition Haya. Pourtant, le Aaron, où il y a les Louchot, les plus importantes, les nouvelles. A priori, il est à Tzion, il est à Yerushalayim, donc c'est pas possible qu'il soit à Sukkot. Forcément qu'il y en avait deux. Ah, Ma'adin les Rabbanan. Que vont dire Chachamim, qui eux pensent qu'il y avait un seul Aaron? Lui dit non, en fait, quand on dit que c'était Bassoukot, c'est pas un endroit là Bassoukot, c'est vraiment une cabane qu'on a fait à l'endroit au Beit HaBechira, à l'endroit où le Beit HaMikdash allait être construit. Donc à cet endroit-là, eh bien, on a mis une sorte de toiture au-dessus, et cette toiture provisoire s'appelle justement Soukot, et donc c'est le même Aaron qu'il y avait à Jérusalem dont on parle ici et qu'on appelle Bessoukot. C'est la manière dont on l'a installé finalement, donc c'est comme ça que Rabbanan expliqueront ce verset. Mishnignas, Aaron revient sur l'Aaron. Une fois qu'on l'a enterré, Nignas, Emot, on a également enterré le reste de la manne qu'on avait gardé comme souvenir. Vous slochit Shemen Amishra et une fiole d'huile d'onction qu'avait fait fabriquer Moshe Rabbeinu pour oindre entre autres les kélim du Beit HaMikdash, ou Makloch Aaron, ou Prachav, ou Shkedav, et le bâton d'Aaron qui a fleuri et qui a bourgeonné au moment de la marloquette entre lui et Korach. Vergash, Ishivu, Plishtim, Aga, Hacham, Eloke Israël, et les cadeaux qu'ont apportés les Plishtim lorsque les Philistins ont pris le Aaron à l'époque de Eli, ils ont été maudits, et quand ils ont rendu le Aaron, ils l'ont rendu avec des offrandes, des cadeaux en or, pour demander pardon à Hachem. Tout cela a été aussi Nignaz. Maintenant, Mignazo. Qui a enterré le Aaron? Encore une fois, selon ceux qui pensent qu'il a été enterré, on a vu que certains disaient qu'il est parti en Babel, mais selon cet avis-là, il a été enterré. C'est Yoshiaou, le roi de Yehuda. Yoshiaou, Melech Yeshog Nazo. Pourquoi? Kevan Shirash Katou, il a vu, c'était marqué dans Dvarim, Yolech Hashem Otchavet Malkecha, Hashem t'enverra un jour, toi et ton roi, Ashatakim Malecha, que tu auras nommé, El Goy Ashalo Yodata, vers une nation que tu ne connaîtras pas, Atava Votecha, toi et tes pères. Et donc, il a eu peur que ce soit également le sort du Aaron et qu'on ne le récupère jamais. Amad Ugnazo, donc, il l'a enterré. Adaoud Irtiv, et ça correspond à ce qui est marqué dans Divrayamim. Vayomel al Vim, le Kol Israël. Il a parlé aux Leviim, à Kedoshim, l'Hachem, qui sont sanctifiés pour Hachem. Il a dit, Tenu et Aaron, à Kodesh, Babaïd, Ashabana, Shlomo, Ben David, Melech Israël. Placez le Aaron dans la maison que Salomon, fils de David, a fabriquée. En lachem massa bakate, ça c'est la fin du verset qu'on verra plus tard, mais en tout cas il leur dit de placer le Aaron dans la maison. Mais pourquoi avoir besoin de le dire? On sait très bien que l'Aaron il a toujours été au Beit HaMikdash. Donc s'il demande de le mettre dedans, c'est qu'il était déjà dedans, mais qu'il faut l'y mettre encore plus dedans, c'est-à-dire l'y enterrer, donc enterrer le Aaron là-bas. Amalaimim gole eimachem le Bavel, enatem achazirim oto. En lim comme la fin du verset, en lachem massa bakatef, vous n'avez rien apporté, c'est en fait si on ne l'enterre pas maintenant, vous n'aurez pas de possibilité de le rapporter de l'exil à la fin de l'exil. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument, avant qu'on soit exilé, qu'on le cache. Et là, Tarikdot Hashem Elokechem, Ve'et Amo Israël. La Gemara explique la suite du verset. Maintenant, servez Hashem et son peuple Israël. Pourquoi le roi a besoin de dire cela? C'est parce qu'une fois qu'on enterre le Aaron, on sait très bien que le Beit HaMikdash était construit. Et le centre de ce Beit HaMikdash, c'était à Lazara, au centre de Lazara, où on avait le Echal, et au centre, on avait le Kodesh Kodashim, et au centre du Kodesh Kodashim, on a le Aaron. Donc, d'une certaine manière, le cœur du Beit HaMikdash, le cœur de la sainteté du Beit HaMikdash, c'est ce Aaron, l'endroit où la présence divine était visible au moment de Yom Kippour, lorsque le Kohen Gadol est rentré. Donc, on aurait pu penser que s'il n'y a plus de Aaron, bah, tout finalement le sens du Beit HaMikdash et des sacrifices disparaît. C'est pour ça qu'il leur dit non, pas du tout. Evdout Hashem allait servir Dieu et servir son peuple, puisque finalement les korbanot ne sont pas annulés par le fait que l'on cache le Aaron. Pitoum Shemen Amishra, maintenant on nous parle de cette huile d'onction qu'on a utilisée pour les kélim du Beit HaMikdash, pour les rois. C'est marqué Vatakach Lecha, tu prendras Bessamim Roche, des Bessamim, donc des senteurs. Vekidach Hamesh Meot, après On nous dit de prendre chaque chose avec des mesures, 500, 500, chez un élève, 500 manim, tout ça, ça fait 1500 manés, c'est la quantité de Shemen HaMishra. Shemen Zayit Hin, cette Shemen Zayit là, cette huile pure, Shnemasar, il dit en tout, il y avait 12 logim. Et avec ces 12 logim d'huile, Shebosholkim et Aikarim, on faisait cuire dedans les Ikarim, les racines des Bessamim, des senteurs, des plantes qu'on a citées là-haut. On avait dit qu'on avait 1500 manées de plantes parce qu'on avait une de 500 et plusieurs de 250 jusqu'à arriver justement à 1500. Et donc, ça c'est Rabbi Meir, du Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, maintenant, Sholkamayabamaim, on ne voulait pas que les plantes absorbent l'huile alors qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc il fallait d'abord les cuire à l'eau pour qu'elles absorbent de l'eau, qu'elles ne puissent pas absorber l'huile. Et après seulement mettez l'huile. Une fois que l'huile avait pris l'odeur, et Yamaviro, on enlevait à ce moment-là donc l'huile qui est derrière, chez Apatamine, comme ont l'habitude de faire ceux qui fabriquent les huiles odorantes, Adaudirtiv, et c'est ce qui est marqué dans le verset. Tu feras Shemayim Mishra Kodesh, Rokach Mirkachat Maaser Rokach. Une fabrication de professionnels, justement des senteurs, Maaser Rokach, vraiment le travail d'un parfumeur. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument faire cette manière selon Rabbi Yehuda. Tanya Nain Baita, Rabbi Yehuda, Be Rabbi. Il a le fils de Rabbi Ilaï. Il nous dit, l'huile d'onction que Moshe Rabbeinu a fabriquée dans le désert, il y avait un miracle du début jusqu'à la fin. Depuis le départ, il n'y avait que 12 logim d'huile. Comme c'est marqué, déjà, c'est même pas s'il y a de quoi vraiment ne pas être absorbé dans toutes les plantes qu'on a mis. Et en plus, après, il y a le feu a tendance à diminuer la quantité d'huile. Et il y a les bois, Boulaim qui absorbent, Yora et la marmite elle-même, souvent absorbent également un peu. Mais non, Nimshechoa, Mishkan, Cholkelav. Et malgré cela, avec ce qui restait de ces 12 logins absorbés un peu partout, eh bien, on a réussi à oindre tout le Mishkan, les ustensiles, Shulchan la table, Kelav, les ustensiles de la table, Menorah et les Kelim de la Menorah. Mais Meno, Nimshecho, Aaron, Kohen, Gadol, Obanav. Pareil pour mettre de l'huile sur Aaron et ses fils, les Kohanim. Kol Shevat Imam Elohim pendant les 7 jours d'inauguration du Mishkan. Meno, Nimshecho, Kohanim, Gdolim, Omlachim. Et après, on a continué à oindre les Kohen Gadol et les rois avec. Alors, l'Agma nous dit qu'à l'origine, Melech Batechila Taoun Meshicha. Un roi, le premier roi d'une lignée, doit être oint avec de l'huile. Mais un roi qui ne fait que succéder à son père, un fils d'un roi, pas besoin. C'est marqué quoi? Quand Hachem a ordonné au prophète Shmuel de oindre et de nommer David Amener, il a dit, lève-toi et oint-le avec de l'huile, qui zehu, car c'est lui qui sera le roi. Mais ici, on veut dire que zehu, c'est lui seul qui devra être oint par l'huile, mais pas ce qu'il y a derrière. Donc c'est la preuve qu'il n'y a que le premier roi hein, qui nécessite la Meshicha. Taon Meshicha, donc le Zé est un Meshicha, ben Benot un Meshicha à son fils. Aval Kohen Gadol, ben Kohen Gadol, Afilu Anasaradorot, Taon Meshicha, mais un Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol, quoi qu'il arrive, devra avoir la Meshicha. Ve Kulo Kayam Naatil Lavo, on explique que cette huile-là sera entièrement présente à la fin des temps, comme c'est marqué à Dorotif, Shemen Mishra Kodesh Yezeli le Dorotechem. Cette huile d'onction sera sainte pour moi, pour les générations. Comme si celle-ci allait rester pour les générations. En Moshrim Amlachim et la Gabé à Marianne. On ne met l'huile sur la tête des rois pour les oindre que devant, au-dessus d'un cours d'eau, pour justement montrer que cette royauté ne va pas s'arrêter. Je ne vois comme c'est marqué, Vir Kaptem et Shlomo béni. À la Pirda, vous allez faire chevaucher Salomon, mon fils, et David Amer qui parle à la Pirda sur la mule, à Chali qui m'appartient. Voratem Oto El Gichon. Vous allez le descendre là-bas vers le Gichon. Et c'est sur ce fleuve-là de Gihon que Tzadok HaKohen et Nathan HaNavi vont le nommer roi. La seule raison pour laquelle on peut oindre un roi qui est déjà fils de roi, c'est lorsqu'il y a des désaccords au sujet de la succession. Pour mettre les choses au clair, on peut effectivement à ce moment-là faire une Meshicha. Bipnei Nimshar Shlomo, pourquoi Shlomo a eu le droit à une Meshicha alors qu'à la base c'était pas prévu? Bipnei Machlouk de Shelodina, à cause de son frère Adoniahu qui a voulu prendre le pouvoir. Yoash, pourquoi lui aussi, alors qu'il était le fils de Achazayahu? Bipnei Atlayou, à cause de son frère Atlayou. Et on a aussi Yoyachaz, Mais Pnei Yoyakim arrive à cause de Yoyakim, son frère. Il y a Gadol Memeno Shechanim qui avait 2 ans de plus. Et Yehu, mi Pnei Yoram, à cause de Yoram. Donc on a à chaque fois une nécessité de clarifier les choses. On a posé la question, lo kenktiv kum meshachu ki zehu. Zeta on meshacha ben malchi Yisrael toni meshacha. Il y a un problème, c'est que dans les rois qu'on a cités, il y a des rois d'Israël. Or, les rois d'Israël ne sont pas de la lignée de David Ameler. Et en disant, lui, en montrant David Ameler, Hachem, lorsqu'il a dit à Shmuel, lui, il faudra loindre, de là, on apprend qu'il n'y a pas de Meshicha pour des rois qui ne seraient pas de sa famille. Donc, c'est un problème. Et là, Yoyachas, Mipne Yoyakim Achiv, Shagadol Mimenu, Shteshanim. Velo, Yoshio Gnazo. L'Agma dit, quoi qu'il arrive, elle répond par une autre question. Il dit, quoi qu'il arrive, le dernier cas qu'on a cité. Parmi les derniers cas, l'avant-dernier, on a cité Yoyachas à cause de Yoyakim. Mais Yoyachas et Yoyakim sont les fils de qui? Ce sont les fils de Yoshiaou. Yoshiaou, c'est le roi qui a mis de côté, qui a enterré quoi? Le Aaron, et entre autres, Shemen HaMishra, la fiole avec Shemen HaMishra. Donc quoi qu'il arrive, il n'y a pas de Shemen HaMishra à l'époque de ses enfants, donc c'est pas possible. Donc et quoi? Adam Ra, Bafarsemon Imshar. C'était pas de l'huile de Meshicha, c'était l'huile d'Afarsemon, une huile d'un autre végétal qui a une bonne odeur. Et donc c'était pas une Meshicha classique, c'était pas une Meshicha halachique, c'était simplement pour montrer aux gens. Et donc du coup il n'y a pas de problème à l'appliquer à quelqu'un qui n'est pas de la descendance de David Ameler, parce que c'est pas une Meshicha au sens halachique du terme. En Moshrin et la Mina Keren. Lorsqu'on verse l'huile sur la tête du roi, on le verse avec un ustensile qui a la forme d'une corne, pour montrer la solidité, la force qu'on souhaite à cette royauté. Par contre, Shaoul veYehu nimshecho min hapach. On l'a renversé avec une fiole. Et une fiole, ça représente quelque chose qui se brise, comme souvent l'argile, Aïtam Malchutan, Malchut Overet, parce que c'était justement une famille royale qui ne devait pas tenir. David ou Shlomo, Nimshéhu, Mina Keren, Aïta Malchutan, Malchut Kaimed, alors que David et Shlomo, leur royauté, leur famille royale a duré. Et Moshrim Kohanim, Melachim, on ne peut pas nommer des Kohanim rois. L'Agma va porter 2 sources. Amar, Rabbi Yuda, Antun, Daria, Alchem, Lo Yassur, Shevet, Mi Yuda. À cause du verset qui dit là-bas, Lo Yassur, Shevet, Mi Yuda, le bâton de la royauté ne quittera pas Yuda. Donc c'est pour ça que les Kohanim étant la famille des Lévim, ils ne peuvent pas être rois. Si c'est seulement ce verset, ça veut dire qu'ils sont interdits en tant que Kohanim des trois, autant que les autres tribus, autres que Yehuda. Alors, Rabbi Chiya Barada, mais là on a une proposition qui montre que l'interdit est encore plus particulier aux Kohanim. Le man yarich miyamim amlachto hu banav bekerev Israël, au sujet du roi, c'est marqué dans la Torah, afin qu'il allonge ses jours sur son royaume, hu banav bekerev Israël. Maktiv batre, qu'est-ce qui est marqué juste après? Une halakha sur les Kohanim et Lévim. Lo hiyeh la Kohanim alvim koshevet Lévi chelek v'nachala Israël. Les Kohanim et Lévim n'auront pas d'héritage dans la répartition des terres d'Israël. Mais c'est une manière aussi de dire que ce qui a marqué avant, que le roi devra vivre longtemps et le roi sera au pouvoir, eh bien c'est ça. Lo hiyeh la Kohanim alvim. Ça n'arrivera pas aux Kohanim et aux Lévim. C'est-à-dire que ici, on fait en sorte que le début du verset, eh bien, soit relié également au sujet qui était précédent. Maintenant, la Gemara va analyser les versets là-bas dans Divrei Hayamim qui rapportent les enfants de Yoshiaou. Bnei Yoshiaou, Habechor Yohanan, l'aîné Yohanan. Hasheni, le deuxième, Yehoyakim. Hashlishi, Tzidkiaou, le troisième, Tzidkiaou. Et Harevi'i, Shalom. Donc, si on regarde le verset, Yohanan, Yehoyakim, celui qui sera au roi finalement, Tzidkiaou et Shalom. L'Agma nous dit quoi, ma Rabbi Yohanan? Hu Yohanan ou Yoyachaz? Yohanan, c'est le fameux Yoachaz qu'on a dit là-haut, qui a voulu prendre le pouvoir, et c'est pour ça qu'on a eu besoin de faire la Meshicha à Yoyakim. Alors, Ve'aktiva Bechor Yohanan, pourtant c'est marqué que le grand frère, c'est Yohanan, c'est pas Yoachaz, il dit Bechor la Malchut. Là-bas, c'est juste pour dire qu'il est Bechor, il est Bechor par rapport à la royauté. Donc finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que le Yohanan ici qu'on appelle le Bechor, c'est Yoachaz, celui qui est roi. Et ce Yoachaz qui est roi, on l'appelle Bechor, mais en fait, c'est pas un vrai Bechor. Il est Bechor par rapport à la royauté. Mais en réalité, c'est Yoyakim qui est l'aîné. Amar Yohanan, hu Shalom ou Tzidkiaou. Rabbi Yohanan nous dit, tu sais, les deux derniers, Shalom et Tzidkiaou, c'est le même. L'actif Hashlishi, Tzidkiaou, Varvé, Shalom, pourtant le verset dit le troisième, c'est Tzidkiaou, le quatrième, c'est Shalom, c'est deux personnes différentes a priori. Non. Shishi la Toladot, Orvi la Markout. Non. Il est troisième dans l'ordre de naissance, mais les quatrièmes dans l'ordre de la royauté. Alors, quatrième, parce qu'il viendrait après le fils de Yehoyakim. Donc, du coup, c'est pour ça. Hein. Donc, Yehoyachaz. et à Yoakim, et le fils de Yoakim. Donc c'est pour ça qu'il est quatrième. Titkiaou, pourquoi on l'appelle donc Titkiaou, et en même temps, il a plusieurs prénoms. Chez Tidekalav Midatadin, parce qu'il a accepté la justice divine. Lorsque ses fils ont été tués par le roi de Babel, qu'on lui a crevé les yeux, il a accepté la sanction. Shalom, Shebiamav, Shalma, Malchut, Bedavin. Shalom, pourquoi? Parce que Shalma s'est terminé. Eh bien, la royauté de David Améler avec lui. Resh Lakish Amar, Lo Shalom Avashme, Lo Titkiaou Avashme, selon Resh Lakish. Aucun de ses vrais noms était Shalom ni Titkia. Et là, Matania. Adaur dirtiv, comme c'est marqué dans Menachem, Vayamler, Mener Bavel, et Matania, Dodo Tartav. Le roi de Bavel a nommé un certain Matania comme roi. Sev et Shemo, Titkiaou. Il l'a nommé Titkiaou. Donc son vrai nom, c'était Matania. Titkiaou, c'est un nom d'emprunt. Amar Rabbi Yochanan, Farim, Aya Aaron, Asu. On revient maintenant sur l'Inyan du Aaron. Amar Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan nous dit que le Aaron était fait avec une amma de Shishat Fahim. Donc il avait une taille, donc le long en large, il avait deux amot et demi de long et une amma et demi de large, le Aaron dans lequel on mettait les louchot. Simplement, sur la amma, il y a une amma qui fait 5 Tfachim et une autre qui fait 6 Tfachim, la grande amma et la petite amma. Et ici, quand on nous dit que ça faisait 2,5, donc 2 coudées et demi sur 1,5, est-ce qu'on parle de la grande coudée ou de la petite? Celle qui fait 5 Tfachim, 5 poignées ou 6 poignées. Rabbi Yochanan nous dit celle de 6. Rabbi Meir lui dit donc du coup que ça colle avec Rabbi Meir. Pourquoi? C'est marqué dans une Mishnah d'Itnan. Rabbi Meir Omer, kol amot, hayu benoniot. Toutes les amot en général étaient benoniot, celles de 6 tfachim. Rabbi Meir n'est pas d'accord, Omer. Amot, abinyan, shisha, shel kelim, chamisha. Lui pense que non. Quand on parle des amot, des coudées pour les tailles des bâtiments, là effectivement c'est les grandes coudées de 6. Quand on parle des objets, du mobilier, là par contre ce sera 5, or le haron est un objet, et donc normalement ce serait des hamot de 5 tfachim, non pas de 6. En tout cas, Rabbi Yochanan colle avec la chita de Rabbi Meir qui dit que c'était 6. Al da'ate de Rabbi Meir, maintenant on fait le calcul selon Rabbi Meir. Do'amar be'amash shet tfachim, aya haron aso. Ici, le haron était fait avec des hamot de 6 tfachim. Or, kosher haron chamisha, asar tfachim. Ça fait finalement une longueur de 15. Pourquoi dire t'il va mater vachet si orko? C'est marqué qu'il a deux coudées et demi de long. Amta Ashita, une amas ça fait 6. Ve'amta Ashita, ou palgout, Amta, Tlata, 6, 6, plus la moitié de 6, 3. Ça fait donc bien 12 plus 3, 15. C'est la longueur du haron. Verba, louchot ayubo. Il y avait les 4 louchot. Donc dans les tables de la loi, chaque fois il y en avait 2. Celle qui était de base, cassée, et celle de les nouvelles. Et donc il y en a 4. Ou Shneim Shvurim, donc deux entières, Shneim Shvurim, Dirti, quand c'est marqué Shashi Barta avec Samtam, Aaron, c'est que tu as cassé, tu les mettras dans l'Aaron. Les louchot elles-mêmes, les anciennes et les nouvelles, avaient 6 tfachim de longueur et 3 de largeur. Et la longueur des louchot était dans la largeur du Aaron. Ce qui nous fait un reste de 3 tfachim. Pourquoi encore une fois? On a dit que le Aaron, imaginons comme un rectangle. Ce rectangle-là, il fait 2,5 sur 1,5. Donc 2,5, si on regarde le mode de 6, ça fait 15. 15 en longueur et 9 en largeur. Et on met les louchot dans le sens, encore une fois, opposé, c'est-à-dire leur longueur dans la largeur. Leur longueur, elle est de 6. Donc on met des louchot de 6, ce qui fait qu'on va avoir finalement du surplus de 3. Et on les colle les unes aux autres. Donc les louchot font chacune 3 de large. Donc ça fait 3 fois 4, 12. Et donc il reste également par rapport à la longueur du haron, 3. Ten me'em kotel. Torah. Et donc il faut laisser la moitié d'un tefar aux extrémités pour que ça colle pas complètement au mur. Et après il reste 2 tefachim. Ces deux poignées-là servent à mettre le Sefer Torah. Donc ce Sefer Torah, comme Moshe Rabbeinu a écrit, était mis avec justement les 4 tables, c'est-à-dire les 2 paires de tables de la loi. Or, Moshe Aaron, Tishat Farim, parce que la largeur du Aaron fait 9. Directive, Amma Vachet Sirko, 1,5, Amta, Ashita, une Amma, ça fait 6, ou Palgout, Amta, et la moitié d'une, ça fait 3, Tlata, ça fait donc 9. Arba Luchot Ayubo, on mettait donc 4 Luchot, Shneim Shlemim, Shneim Shvurim, 2 entières de cassé, Shashi Batan Satan Varom, Aluchot Ayu, Kolechad Vechad Arba, Orkan Shishat Vachim, Vorokban, Shatfarim, on a vu effectivement que chacune faisait 6 et 3, 6 sur 3. C'est Norkan, chez l'Ukhol et Rorban, chez l'Aaron, Ishtaïr, Sham, Shatfarim, les 3 Tfarim, en hauteur, parce qu'on a dit que ça fait 9 de largeur, mais que les longueurs dans lesquelles on mettait ici les Luchot, faisaient que 6. Khatsiteva Mikan, on laisse à chaque fois la moitié d'un Tfar. Khatsiteva Mikan, la côte Elze, ou Tfarhaim, les Shilut, Makom, Shisva Torah, Munach, on laissait deux tfachim pour avoir un peu de jeu pour pouvoir enlever justement le Sefer Torah. Maintenant, Rabbi Shmuel Akishama, Bama bat Chamisha tfachim ayu Aaron Asu. Selon lui, le Aaron était fait avec des amot de 5 tfachim. La Shita donc de Rabbi Yuda Mantana, Bama bat Chamisha tfachim, c'est qui le Tana qui pense ainsi? C'est Rabbi Yuda. Et Nian Tama, c'est marqué Rabbi Domer, Aman Abidin, on l'a déjà vu, Shisha tfachim. 6 tfachim, c'est pour les bâtiments, mais pour les objets, Shela Kelim Chamisha, c'est 5. En Aaron, Kelihu. Et ce Aaron, c'est un Keli, c'est un objet, donc c'est 5. Al-Da'ate de Rabbi Uda, selon Rabbi Uda. D'où Amar, comment on fait le calcul? Mabat Chamisha Tfarim Ayarko, chez Aaron Asoui. Donc si c'est une amas de 5, ça fait donc 2,5, ça fait 5 et 5, plus la moitié, ça fait 12,5. Chez Masar, Tefach Omer, Tzadirti, Vama Tevach Orko, comme c'est marqué 12,5. Amta Chamcha, une amas, ça fait 5. Ve Amta Chamcha, encore 5, pas le goût. Amta et la moitié de 5, c'est 2,5, très haut palgué. Arba luchot ayu bo, on mettait donc les 4 luchot dans ces 12,5 de longueur. Shneim shlemim, shneim shorim, deux cassés dents entières. Et on reprend encore les versets qu'on a déjà vus, dirti, vacha shibarta, samtam baron. Luchot ayu kol echad echad, orkan shatfachim, verorban, shatfachim. Elles avaient 6 de long sur 3 de large. Ces 3 de large qu'on cumule fois 4, parce qu'à chaque fois il y a deux paires, donc de luchot. Ten rochban shel luchot l'orko, shel aron. Si la largeur des louchot étaient dans la longueur du haron, ça fait donc 3 fois 4, 12, et en tout on avait donc 2,5 longueur. Il reste un khatitefar qu'on découpe en deux pour les deux extrémités de la place. Etzba, la côté de Mikan, et Etzba, la côté de Mikan, la moitié de la moitié d'un tefar, donc le quart d'un tefar, l'équivalent d'un doigt qu'on mettait aux extrémités pour avoir un peu de jeu. Donc on voit qu'on a les 4 louchot, mais qu'on n'a pas de sefer Torah. On reboche à la haron maintenant sur la hauteur combien il va rester. La largeur du Aaron, elle est Shiva Tfachim ou Mertsa 7,5, puisque c'est une amma et demi, une amma et de 5. Dirtiv Amma Vachetsi Orko, quand c'est marqué une amma et demi. Amta Khamsha, une amma fait 5. Palgut Amta, la moitié fait 2,5. Très haut palgut. Mais Arba, Luchot Ayubo, il y avait 4 Luchot. Shnaim Shlemim, Shnaim Shvurim, deux entières de brisées. Dirtiv, encore une fois, Shashi Barta, Samtam Baron. Aluchot, Ayakol Achad Vechad Orkan Shisha Tfachim. Les Rochban, comme on l'a déjà vu, elles étaient 6 sur 3. Tenorkan, les Rochbosh et l'Aaron, quand on met leur largeur dans le sens de la longueur du Aaron, Ishtayer, Sham, Tefach, Omerza, il restera Tefach, Omerza, parce qu'elle faisait 6 donc de longueur, mais qu'en réalité, dans la largeur du Aaron, il y avait 7,5. Ezba, la côté Mikan, Ezba, la côté Mikan, on laisse effectivement un doigt à chaque extrémité. Khatsi Tefach Mikan, les Shilut. Plus un demi-tefar en plus de part et d'autre pour avoir du jeu pour enlever éventuellement les louchot. Qu'est-ce comment Aaron a fait, El Betzalel a fait le Aaron? C'est marqué, cette boîte était de l'intérieur et de l'extérieur recouverte d'or. Rabbi Khan Ben Gamliel Amar propose, Shalosh Tefot Asao. On lui a fait faire 3 boîtes. Shteim Shel Zahav, 2 en or. V'chat Shel Haetz, c'est une en bois. Natan Shel Zahav, Beshel Haetz. Donc, une plus petite que l'autre. Il a pris la plus petite en or, il l'a mise dans celle en bois, un tout petit peu plus large. Et après les deux, chez la Hetz, et donc celle en bois dans laquelle il y avait celle en or, il l'a mise dans une plus grande en or. Ce qui fait que de l'extérieur, on voyait la boîte en or, et à l'intérieur, on voyait la boîte en or, et au milieu, une boîte en bois. Veti Pahou, et après, il a également la partie supérieure, il l'a recouverte, la partie, donc on avait la partie du bois qui était visible, on l'a recouverte également. D'or, quand c'est marqué, Vitsipita Otozahavta Or, tu le recouvriras d'or, Mi Ba'it ou Mi Chout, Tetsapenu, de l'intérieur de l'extérieur, tu le recouvriras. Matamu Lomar Tetsapenu, pourquoi répéter Tetsapenu, c'est déjà marqué, Vitsipita Oto. La vis, Fato Ayuna, pour dire que même le rebord supérieur devait être recouvert d'or. Rabbi Shimon Ben Lakish, Amarteiva Achat Asao, Vitsipao. Selon Resh Lakish, il y avait une seule boîte, simplement elle était recouverte de part et d'autre. Yati Vitsipita Otozahavta Or, Mi Ba'it Bechout. Tu le recouvriras d'or de l'intérieur et de l'extérieur, c'est la même boîte que tu recouvriras d'or. Matamulomar Tetsapenu. Alors, selon lui, pourra avoir dit Tetsapenu. Amar Rabbi Minras, la vie ben Neser, les Neser. C'est pour nous dire que même entre les endroits où on mettait Il y avait des planches, il y avait des clous. Même entre ces endroits-là, là où il y avait les planches, il fallait absolument que tout soit recouvert. Donc c'est pour ça qu'on répète et tapait nous pour pas qu'il y ait la moindre fente, le moindre endroit où il n'y a pas d'or. Comment les louchot étaient écrites? Rabbi Chaïna ben Gamliel, Chamisha alouarze, Chamisha alouarze. Sur chacune des deux tables, il y avait cinq des 10 commandements. Il les a écrits sur les deux tables en pierre. Chamisha alouarze, Chamisha alouarze. De là, on voit qu'il les a écrits. Donc, on divise 10 par 2, ça fait 5. Rabbanan amre, Asara alouarze, Vasara alouarze. 10 sur l'une, 10 sur l'autre. Certains disent que c'est la version qui a marqué dans Yitro, dans l'autre, la version qui a marqué dans Vaetranan. Ada odirti, va yegel lachem et berito, achatsi va etrem la asot, aseret adevarim. Et après, c'est marqué vaïr tevem, achne luchot avanim. Donc, comme c'est marqué une première fois, aseret adevarim, après c'est marqué vaïr tevem, ils ont écrit achne luchot, on a l'impression que il les a toutes écrits, les 10, sur chacune des deux tables. Asara alouarze, vasara alouarze. On va plus loin, Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Asrim alouarze, veisrim alouarze. Lui dit que ça a été écrit 20 fois, donc 20 commandements. Sur l'une et 20 sur l'autre. On rajoute Rabbi Simaï Omer, Arbaïm Alouarze, Arbaïm Alouarze. Lui dit que c'était marqué 40 fois sur chacune des deux tables. Pourquoi? Dirti, Mizeo, Mizeo, Hem, Ketuvim. De part et d'autre, elles étaient écrites. Des trogas, ça fait finalement multiplié par 4. Donc on écrivait 20 sur une face, 20 juste derrière, et sur l'autre encore 20 et encore juste derrière, ça fait 40 et 40. Hanania, Benachi, Yoshua, Benachi, Rabbi Yoshua, Hanania, le fils, le neveu de Rabbi Yoshua. Ben kol dibur vedibur dikdukea shel Torah. Entre chacun des commandements, il y a tous les dikdukim, toutes les lettres de la Torah qui sont mentionnées entre cela. Comme c'est marqué, dirtiv, memulaim batarchish. Dans Shereshim, là-bas, on compare la Torah et les louchot. Memulaim batarchish qui sont pleines comme Tarchish. Tarchish, c'est un port qui est en Méditerranée, donc c'est une allusion à la mer. Donc elles sont pleines de détails sur la Torah. Comme la mer est pleine de vagues. Et donc, c'est une manière de montrer encore une fois qu'il y avait tous les dikdukim de la Torah dans les louchot. Rabbi Shimon ben Lakish, Kadava Mate Aden Keraya. Lorsqu'il arrivait à ce verset de Memoulin de Bartashish, il disait Yafé, Limidani Chananya ben Achi Rabbi Yoshua. J'ai une bonne explication de ce Chananya ben Achi Rabbi Yoshua. Mayamaze, Ben Gal, Gadol, Egam, Gadol, Galim Tanim. De la même manière qu'en mer, entre deux grandes vagues, il y a des dizaines de petites vagues. Eh bien, car, ben, kol dibour ve dibour, dikdukea, tu étais hachel Torah, pareil ici, pour les grands dibours des Aseret HaDibarot, il y a plein de dikdukim de la Torah au milieu. C'est pour ça que la parabole avec la mer et les vagues est judicieuse. Amar Rabbi Tanchuma, itkeshiat, kumer Rabbi Mitras. J'avais une question devant Rabbi Mitras. Atia, ke Rabbi Uda, et lo atia, ke Rabbi Meir. Parce que le verset que je vais citer, a priori, ne va que selon Rabbi Yehuda, et non pas selon Rabbi Meir. Donc Rabbi Yehuda, c'est celui qui pense que le Aaron était plus petit, qu'il n'y avait pas la place de mettre un Sefer Torah dedans, alors que selon Rabbi Meir, il était plus grand et on mettait un Sefer Torah. Yati, c'est marqué, la Kor est un Sefer Torah Zé, mais Samtem Oto Mitzad Aaron Berit Hashem. Prends ce Sefer Torah et mets-le à côté du Aaron, en disant à côté. On voit qu'il n'était pas dedans. Alda'atel Rabbi Yehuda. D'où Amar, et Chanaya Sefer Torah Natun, qui min gloskaya, asulum ibachus. Selon Rabbi Yehuda, on a fait une petite boîte à côté, et Sefer Torah Natun betocho, et on mettait le Sefer Torah à l'intérieur. Maintenant, Maïtama de Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir, alors que le verset a l'air d'être contre lui, continue de dire qu'il était à l'intérieur? Parce que c'est marqué, Venatata et ta parochet, et ta kaporet, ala Aaron milmala. Tu mettras le couvercle sur le Aaron au-dessus, ve el Aaron, titen et ta edut, Asher et Tanelecha. Et dans le Haron, tu donneras la Redoute. Et si on prend le texte dans la chronologie, on voit d'abord qu'on met le Haron, la caporette, on met donc le couvercle. Si on met couvercle, c'est qu'il y a déjà les louchotes. Et après, à un moment donné, il faudra mettre dans cette boîte ce qu'on appelle la Redoute. La Redoute, ça ne peut pas être les louchotes. Parce que si, eh bien, on a déjà fermé avec le caporette, c'est que les louchotes, ils étaient déjà. Donc si on, ce qu'on met après la Redoute, c'est le Sefer Torah. Donc c'est forcément le Sefer Torah. On voit bien que le Sefer Torah a été mis là-bas. Al daté des Rabbi Yehuda, main sur le Rabbi Yehuda, do amar en mukdam ou meochar batora. Selon Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, il n'y a pas forcément de chronologie dans la Torah. Et là, ve el aron titen ta edut asher eten lecha. Le verset d'après qui dit que tu mettras le edut, c'est les louchot. Et le verset d'avant qui a dit tu mettras le couvercle, en réalité, c'est une action qu'il faudra faire après, bacharkar. Et seulement après, tu appliqueras ta kaporet à l'aron milamala, tu mettras le couvercle dessus. Rabbi Pinchas, Beshen Rabbi Shimon ben Lakish, au nom de Resh Lakish, à Torah, Shenatan lo Kadosh Baruch Hu le Moshe, La Torah qu'Hachem a donnée à Moshe, Nitina lo esh levana charuta be'esh shechora. Il lui a donné sur du feu noir qui est écrit sur du feu blanc, comme finalement, d'une certaine manière, l'écriture, l'encre sur une page blanche. Hi esh muvlelet be'esh, ce qui fait du feu, donc mélangé avec du feu, elle est chatsuva me'esh, elle a été prise du feu, c'est-à-dire sous le trône céleste, comme c'est marqué qu'elle est là-bas depuis avant la création du monde. Untuna me'esh, elle est donnée de celui qu'on appelle Esh, Akadosh Baruch Hu, qui est Esh Ochelahu, qui est un dieu dévorant, un feu dévorant, pardon. Adao dirtiv, et ça implique ce qui est marqué, c'est marqué que la Torah, Mimino, Esh dat lamo, lorsque Hachem est venu, il avait à sa droite Esh dat lamo, une Torah de feu. Donc on voit effectivement que la notion de feu, à la fois dans l'écriture, à la fois dans celui qui donne, à la fois dans l'origine de la Torah, est quelque chose qu'on le retrouve à plusieurs reprises dans la description métaphorique de la Torah.